Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Ici, c'est un terroir de viticulture, au soleil rageur, au parfum de raisin et d'embrun. Ici, c'est une terre calcinée, rude, difficile, exigeante, aux coteaux en terrasse, où les meilleurs outils restent encore la pioche et le sécateur. Mais ici, et pas seulement ici d'ailleurs, la nature est bien présente avec ses passions, ses secrets de famille, ses rumeurs et ses non-dits. Ici, l'atmosphère peut être lourde et les enjeux tels que le vin peuvent se changer en sang. Au nom de quoi peut-on en arriver à cette extrémité? Peut-on, au nom de l'amour, décider pour l'autre de son bonheur? Si vous pensez que c'est la vraie question, alors vous êtes au bon endroit et dans la bonne histoire que se propose de vous conter Muriel Carchon dans son roman « Vendange amère » paru en 2023 aux éditions TDO. Bonjour Muriel Carchon.
Bonjour Philippe et merci à vous et à la radio de m'accueillir.
Alors nous sommes ravis de vous accueillir. Je salue nos auditeurs. Et ma première question, Muriel Carchon, serait que vous puissiez me répondre à une question qui n'est peut-être pas fondamentale par rapport au livre. Quelle est votre bagnole préférée?
La question traître, je ne vais peut-être pas me lancer là-dessus. Je vais dire que j'adore le Banyuls et j'adore cette région. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai inscrit ce roman-là dans ce paysage de la Côte Vermeille.
D'accord. Alors, je vais pendant quelques instants essayer de donner quelques informations à votre sujet à nos auditeurs. Vous m'arrêtez quand vous voulez, si je dis des bêtises ou si j'avance des inexactitudes. Alors, vous êtes né en Algérie, donc vous avez passé votre enfance.
Oui.
On peut dire que vous avez le goût d'ailleurs, ceci expliquant peut-être cela. Que vous êtes une éternelle voyageuse et que vous aimez, on peut dire, rencontrer l'autre. On peut vous qualifier de curieuse et très enthousiaste, et que vous avez fini par poser votre besace au pays de Cocagne, et par un étrange hasard, l'écriture s'est imposée à vous. Et dans quelles circonstances?
Alors, ce sont des circonstances qui datent d'il y a 45 ans exactement, puisque c'est quand j'ai rencontré mon époux, qui lui-même déjà était écrivain. Donc, je l'ai lu, relu, j'avais déjà une grande lecture livresque. Les livres, il faut dire, ont été un refuge pour moi, puisque justement, quand je suis rentrée d'Algérie, cela a été un peu compliqué pour la petite fille que j'étais. Et donc, eh bien, voilà, la lecture s'est imposée. Et puis après, avec le compagnon écrivain que j'avais, l'écriture, à son tour, s'est imposée.
D'accord. Donc vous êtes devenue écrivaine presque par proximité et par contagion, presque.
Oui, vous pouvez le dire, par contagion.
D'accord. Alors, vous avez récemment reçu un prix de l'Académie des livres de Toulouse pour un roman qui s'appelle « Meurtre à Agen ».
Oui, « La croisade de l'élu ». Donc, c'est le deuxième volet d'une trilogie et le préquel, en fait, sort en mars 2025 et qui s'appelle « Mystère en Lot-et-Garonne, l'enfant sacré ». C'est une trilogie à coloration ésotérique.
D'accord.
À la geste.
Alors, vous avez signé aussi des romans historiques?
Oui, alors avec Yves Carchon, justement, mon époux, nous avons commis l'écriture d'un roman historique qui relate le peuplement de l'Algérie en 1848. Et d'ailleurs, à ce titre, il est sorti en février 2024, toujours à la geste. Et là, nous avons obtenu le prix de Castres, le 20 octobre 2024.
Et alors, le titre, vous dites?
Ça s'appelle « Les moissons de l'exil ».
Voilà. Et vous aviez, il me semble, publié un autre ouvrage qui s'appelle « Les volontaires de la Nouvelle-France ». Alors, quel est le rapport avec cet ouvrage?
Alors, je vois que vous êtes un très fin lecteur. Alors, effectivement, « Les volontaires de la Nouvelle-France », suivi des « Moissons de l'exil », donc 2013 et 2014, ont été des romans qui ont été auto-édités, écrits par nous deux et auto-édités. Et de fait, quand on les a proposés à notre éditeur de Polar, il a été enthousiaste et il l'a réédité dans une collection qui s'intitule « Les moissons » et qui est diffusée au niveau national. Et nous en sommes fort ravis.
Muriel Carchon, est-ce que c'est plus difficile d'écrire à deux mains ou à quatre mains ?
Alors, à quatre mains, c'est très, très, très compliqué. Mais il faut dire que cette prouesse, parce qu'on peut parler de prouesse, ça a été en 2013 quand je commençais à écrire. Je ne sais pas si maintenant, après une dizaine d'années d'écriture pour moi, si cela serait aussi aisé. Parce qu'il faut bien se dire qu'il faut que chacun mette son ego sous le tapis et puis soit dans une très grande tolérance par rapport à l'autre, et puis aussi bien comprendre que chacun, il faut se mettre au service de l'ouvrage, parce que c'est un défi que d'écrire à deux. Et cela demande une très grande complicité.
Et techniquement, comment on procède ? Chacun écrit un morceau ou comment se distribue le travail de rédaction ?
Alors, pour ce roman-là, Les Moissons de l'Exil, je suis surprise d'en parler, mais pourquoi pas ? Parce que c'est un livre qui nous tient beaucoup à cœur tous les deux et qui vient de paraître. Alors, Les Moissons de l'Exil, en fait, nous avons dû nous appuyer, enfin, nous nous sommes appuyés sur la chronologie de la grande histoire pour écrire notre roman. À partir du moment où nous avions la chronologie, nous avons été amenés à faire un plan très 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 serré, chapitre par chapitre, et chacun en discutait de ce que l'on voulait faire, de quel personnage l'on voulait s'emparer. Ça, c'était pour la forme, mais il est bien évident que nous n'en sommes pas du tout restés là, puisque nous n'avons absolument pas obéi à ce que nous avions conçu. Et en fait, on écrivait chacun de notre côté l'après-midi, et le lendemain matin, on marchait. Et c'est là où nous avons le plus écrit, c'est en marchant, parce qu'on échangeait en marchant tout ce que nous avions pu écrire la veille, chacun de son côté. Et donc on parlait de la psychologie, de tel personnage, de l'intrigue que nous avions pu nouer, d'un nouvel événement qu'on avait inscrit. Voilà, donc on avait un peu une sorte de fil conducteur, mais on s'en est écarté pour le plus grand bonheur de l'écriture, je pense. Tout de même.
Alors, vos toutes dernières parutions, quelles sont-elles ?
Alors, mes dernières parutions dans l'ordre, eh bien, Vendange amère, dont on va parler tout à l'heure. Ensuite, il y a eu La croisade de l'élu, qui a été un premier roman présenté en même temps que Vendange amère à la Geste en mars 2023. Et l'éditeur, quand il a vu qu'il plaisait beaucoup, m'a demandé d'écrire une suite. J'ai été fort étonnée et j'ai donc écrit « Meurtre en Lot-et-Garonne, l'ombre de l'élu ». Et suite à cela, il m'a demandé d'écrire une suite. Et là, j'ai dit non, je ne peux pas écrire une suite parce que vraiment, ce n'est pas possible. Alors, il m'a dit « bah écrivez le préquel ». Alors, comment résister à un tel éditeur ? Je n'ai pas pu. J'ai écrit le préquel et il sort en mars 2025 et il s'appelle « Mystère en Lot-et-Garonne, l'enfant sacré ». Donc, une trilogie ésotérique.
Très bien. Alors, vous avez... Comment vous pourriez qualifier vos sources d'inspiration ? J'ai lu quelque part que vous étiez animé par le besoin de transmission, que les idées de tolérance, d'altruisme, de bienveillance étaient quelque chose qui vous tenait à cœur. Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture, au-delà des histoires, finalement ?
Oui, en fait, l'histoire est un prétexte, est un support pour moi pour développer des thématiques qui me tiennent à cœur. Dans un roman précédent, par exemple, chez Kern, j'avais parlé de la vengeance et du pardon. Et donc, c'est toujours par thématique que je... En fait, une thématique va s'imposer à moi, un thème, et à partir de là, j'ai envie de l'inscrire dans un environnement, dans un cadre qui me plaît. Donc là, en l'occurrence, pour Vendange amère, ça a été la Côte Vermeille. Et à ce moment-là, j'ai le cadre, j'ai le thème, il ne me reste plus qu'à rédiger.
Voilà. Et c'est la partie la plus difficile ?
Alors, cela dépend des romans. Pour Vendange amère, la construction était relativement simple parce que je ne jouais pas dans le temps. C'est un roman linéaire. Et j'ai voulu partir un petit peu, en toute humilité, sur le thème de la tragédie grecque, puisque mon personnage, un de mes personnages, s'intitule Rodrigue. Donc voilà, c'est un peu sur la tragédie.
Alors, j'aurais envie de vous poser la question par rapport à l'écriture, comment vous vous définissez ? Est-ce que vous vous définissez comme une romancière ?
Alors, ça a été une question pour moi très compliquée parce que la première fois quand j'ai parlé de mes romans, effectivement, je n'arrivais pas à accepter de me présenter en tant qu'écrivain, c'était trop. Auteur aussi, et même romancière. Et je me présentais comme raconteuse d'histoire. Mais bon, on m'a dit ce n'est pas joli, et je l'entendais bien que ce n'était pas joli. Mais en fait, ça a été quelque chose, c'est quelque chose de puissant pour moi. Les mots ont tellement été port, refuge, salut, que là, me retrouver de l'autre côté du miroir, cela m'a été compliqué. Mais bon, maintenant, je peux porter sur mes frêles épaules le terme de romancière.
Et vous auriez pu adopter le terme conteuse d'histoire, peut-être plus joli.
Oui, oui, mais dans un roman noir, conteuse d'histoire, c'est un peu compliqué aussi. Parce que le conte, parfois, il y a du merveilleux.
Tout à fait. Alors, j'ai lu quelque part que vous vous donniez comme défi pour chaque roman de changer de genre. C'est impératif pour vous de changer de genre, d'alterner, d'être dans des environnements, d'entraîner les lecteurs dans des environnements différents ?
Oui, alors c'était au tout début où j'ai écrit, et c'est vrai que j'ai commencé donc par écrire le roman historique avec Yves, avec Les Moissons de l'Exil. Ensuite, j'ai écrit un roman d'initiation, d'ailleurs, qui va ressortir en juillet 2025. Mais bon, c'est une autre, on en parlera plus tard dans les années à venir. Et puis, j'ai écrit effectivement un roman d'anticipation parce que je voulais parler de tous ces thèmes, de l'intelligence artificielle, je voulais parler du changement climatique. Ceci en 2017, il est sorti. Et puis, après, j'ai commencé par écrire un roman noir. Voilà, oui, j'aime bien changer de genre. Après, il n'y a pas non plus beaucoup, beaucoup de genres. Je reviens donc beaucoup plus sur le polar et le roman noir qui me permettent d'explorer des différents thèmes sociétaux, psychologiques, voilà, qui me tiennent à cœur.
Alors, revenons à votre roman Vendange amère, qui tient, comme vous l'avez dit, un peu de la tragédie. Il est toujours intéressant d'essayer de définir, ne serait-ce que par des mots, des suites de mots, un livre. Ça amène à laisser des traces d'impression. Alors, je me suis livré un petit peu à l'exercice. Vous allez me dire si vous êtes d'accord.
D'accord.
Alors, pour la qualification de ce roman, polar, histoire et secret de famille, conditions féminines, histoire d'amour, double vie et vie cachée, galerie de portraits de femmes, non-dits et conventions sociales, un test pour les ménages du lecteur également, suspense et jeux de pistes, intégration en Catalogne, avidité, milieu viticole. Est-ce que ce sont des mots qui recouvrent les idées essentielles de ce livre?
Oui, oui, je crois que vous m'avez bien lu, effectivement, Philippe. Effectivement, je rajouterai, vous êtes très complet, je rajouterai peut-être la rumeur et le qu'en dira-t-on, qui peuvent être mortels pour certaines personnes.
Alors, passons à l'objet du livre, en premier, l'objet au sens concret, l'objet livre que vous avez publié. Est-ce que vous pourriez, malgré le fait que l'exercice soit difficile pour nos auditeurs, décrire la couverture de ce livre ?
Alors, si je devais la décrire, eh bien, vous avez des hampes de vigne qui sont dans des teintes bleu cobalt, on va dire. et en font une lueur rouge incendie. Et ce n'est pas par hasard, puisqu'il y a un incendie dans ce roman. Est inscrite dans cette lueur rouge une silhouette de femme en noir qu'on peut deviner.
Voilà. Alors la silhouette, la femme en noir sur la couverture, c'est annonciateur d'un déroulement et d'une montée du suspense, puisqu'à un moment donné dans votre livre, je crois que c'est vers la page 66, vous évoquez des silhouettes. C'est pendant une cérémonie au cimetière. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu cette impression que ce roman-là, c'était aussi un test pour les ménages du lecteur. C'est-à-dire, on sentait bien qu'il y avait quelque chose, mais le dénouement et l'explication vont venir que très très loin. Mais vous accrochez le lecteur comme ça. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous viennent ces idées d'accrocher le lecteur pour un petit peu le prendre par la main et lui dire attention, fais attention, c'est important, mais je te dis pas tout, etc. Comment vient l'idée de monter ces petits stratagèmes?
Eh bien, en fin de compte, je travaille avec un plan assez serré selon les romans. Celui-ci, je me suis un peu laissée, je vais dire, guidée, entre guillemets. Par exemple, cette silhouette de la couverture, c'est la silhouette sur un fond d'incendie, c'est la silhouette d'une jeune femme, Anaïs, qui, en fin de compte, n'est plus, puisqu'elle est morte sur une parcelle de vigne. Et malgré tout, c'est peut-être le personnage le plus présent dans ce roman. Voilà, vous avez fait allusion à ces deux silhouettes et effectivement, j'ai voulu rebondir sur ces silhouettes parce que, en fait, les personnages sont là, ils vivent, ils maîtrisent leur vie. Mais jusqu'à quel point? Et voilà, dans la construction de ce roman, c'est ce que j'ai voulu faire ressortir. Maîtrise-t-on toujours ce que l'on vit ou est-on pas objet, mais est-on contingent? Par exemple, il y a le problème d'une emprise d'un homme sur une famille, je ne vais pas dire sur un clan, mais pas loin. Et cette emprise, elle est là. Elle n'est pas dans l'action, elle n'est pas dans les mots. Elle est sous-jacente comme une silhouette, justement, dans l'écriture. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Justement, je ne savais pas comment j'allais traiter ce roman, mais je savais quel thème je voulais aborder. Et notamment le pouvoir, donc l'emprise, du patriarche sur une famille, sur ses femmes, sur la condition féminine, à une époque donnée, parce qu'il faut un peu situer ce récit, qui se déroule aussi dans les années 50-60, en fait, le drame d'aujourd'hui est un miroir avec un drame qui a eu lieu bien plus tôt dans les années 50-60. Et donc, c'est tout cela. Les protagonistes, les personnages de ce roman se rejouent quelque chose qui les ont dépassés parce que plus en avant, dans leur histoire familiale, des enjeux ont été joués et ils en sont les jouets, si je peux dire et si je peux faire cette culbute, entre guillemets. Voilà.
Alors, nous allons revenir en détail, notamment sur le contexte du roman. Banyuls, la terre catalane, c'est une terre de vignes. Et je vous propose d'écouter un morceau au sujet des vendanges.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles, comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir tu ressembles à l'amour.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Muriel Carchon pour son dernier roman « Vendanges amères » paru aux éditions TDO. Nous venons donc d'écouter « Les vendanges de l'amour » de Marie Laforêt. Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain, les vendanges de l'amour, car la vie toujours rassemble. Oui, la vie toujours rassemble. Est-ce que ces phrases sont l'essence même du roman, de la motivation à choisir cette chanson, au moins?
Oui, parce que dans la dernière phrase, il y a le mot « la vie ». Et la vie, c'est important, c'est quelque chose... On existe, mais à une condition, c'est de, pour moi, bien sûr, c'est de prendre des risques, c'est d'oser relancer les dés. C'est tout cela qui va faire que les personnages vont pouvoir bousculer leur destin. En fait, c'est cela. On peut être mis sur des rails, et puis après, eh bien non. Des personnages vont se révolter, d'autres personnages vont subir. Ça dépend du chemin. Mais la vie, oui, bien sûr. C'est, je crois, le plus beau mot, peut-être.
Alors, est-ce que vous pourriez donner davantage de détails aux auditeurs sur le contexte de cette histoire, le contexte, on pourrait dire, de cette tragédie contemporaine?
Le contexte... Sans rien dévoiler du roman, en fin de compte, il y a une jeune femme, Anaïs, viticultrice, aimée par ses pères, viticulteurs au demeurant, vignerons, des hommes de la terre. Et cette jeune femme va être retrouvée morte sur une parcelle de vigne. Et le père va accuser le fils d'avoir tué sa sœur. Nous sommes totalement dans la tragédie. Et à partir de là, je vais développer... Évidemment, a-t-il raison ou pas? Bien évidemment, ça va être la quête du jeune policier qui arrive d'ailleurs à Banyuls, et qui est un personnage récurrent dans mes romans, Pascal Rollin.
Alors donc, nous sommes en pays catalan, nous sommes à Banyuls, dans un milieu viticole. Comment on pourrait caractériser ce milieu viticole?
Alors, j'ai pris le territoire de la vigne parce que cela m'intéressait, parce que c'est un Banyuls avec ses terrasses. Vous avez pu le dire en page d'accueil, si je peux dire, de cette émission. C'est une terre dure. Ce sont des terrasses qui plongent vers la Méditerranée. Et ce sont des hommes de la terre. Ce sont des vignerons qui sont ancrés dans leur terre. Et... En revanche, il y a d'autres hommes pas très loin qui vivent du voyage, qui sont des gens du voyage. Et c'est aussi cela que j'ai essayé, que j'ai tenté de créer, c'est cette rencontre, possible ou pas, entre ces gens de la terre incarnés par ces vignerons de Banyuls et les gens du voyage qui sont plutôt basés sur Perpignan et qui vont être un peu le nœud de cette tragédie sans rien dévoiler.
Alors tout à l'heure, vous nous expliquiez que c'était une terre rude, aride, très ensoleillée, parfois très très chaude, et que donc les conditions étaient rudes. Mais vous nous faites comprendre que les conditions ont parfois été encore plus rudes pour certains, dans la mesure où vous nous expliquez que la famille dont vous parlez est originaire d'Algérie et est venue dans ce pays, a réussi à avoir quelques lopins de terrain, mais qui n'étaient pas les meilleurs, et que donc ils sont partis de beaucoup plus loin.
Oui, effectivement, là vous évoquez Cesario Escrivá et Marta, donc le couple fondateur en fin de compte de ce domaine viticole à Banyuls, qui en fait ont quitté l'Algérie parce que déjà ils ne supportaient pas la contrainte du patriarche. Et Cesario Escrivá va venir s'inscrire et va venir dans ce terroir et va vouloir faire sa place aussi, trouver sa place. Aussi, c'est très important pour lui. Il faut que, d'ailleurs, il va aller jusqu'à acheter une concession dès qu'il a acheté son domaine. Il va aller acheter une concession au cimetière pour vraiment s'ancrer dans ce terroir. Et là, il y a avec lui et en lui inscrit toute une éducation qui est une éducation d'honneur, de parole donnée. C'est très important le monde traditionnel. Auquel il appartient. Et quand il va arriver quelque chose dans sa famille, et qu'il ne pourra, notamment chez sa fille, et il ne l'acceptera pas. Et de là, il va exercer son pouvoir de patriarche. Et là, je pose un peu la question, en fait, en filigrane tout au long du roman, peut-on vouloir le bonheur de l'autre à tout prix ? Et quel prix va payer cette famille ? Quand le patriarche va s'entêter. Mais lui-même, est-il coupable ou est-il victime de sa propre éducation ? Ça aussi, je la pose comme question. Parce que, à partir de quand est-on responsable ?
Alors, il y a aussi Marta. Alors, qui est Marta et quels sont ses traits de caractère ?
Alors, Marta, c'est l'épouse de Cesario. Marta, c'était une jeune fille brune, séduisante, pas naïve, mais d'une simplicité désarmante. Et évidemment, elle va séduire le beau Cesario quand ils se marient. Donc, ils viennent en France, à Banyuls. Et c'est une femme saine, c'est une femme simple. Et elle est assez obéissante. Parce qu'elle-même a reçu ce type d'éducation. Elle est assez obéissante à son époux. Mais Marta, cette femme qui est si pleine de concessions, on va dire, et pleine d'amour pour son Cesario, a une sœur, en revanche. Et cette sœur... totalement son opposé. C'est quelqu'un qui est...
Émancipée,
qui a vécu beaucoup de choses. D'abord, elle est partie à Paris. Là, elle a vécu une vie vraiment très, très, très ouverte sur le monde, on peut dire. Et donc, quand elle vient les voir, Cesario et Marta, elle les secoue un peu dans leur quotidien. C'est quelqu'un de très original et qui amène de la... J'ai essayé de faire de ce personnage... un être un peu éthéré, assez léger, comme les robes, les écharpes dans lesquelles elle s'entoure, comme de la mousseline, pour aérer le texte qui pourrait peut-être de temps en temps être lourd dans sa noirceur, mais avec son humour, elle arrive, je l'espère, à apporter un peu de fraîcheur.
Voilà, c'est celle qui apporte l'oxygène à l'intérieur de cette famille, en quelque sorte.
Absolument. Ouais.
Et parmi les personnages, il y a Rodrigue. Alors, Rodrigue, est-ce que vous pourriez le situer et nous faire part un petit peu de son caractère, de la manière dont il appréhende la vie?
Alors, Rodrigue est le fruit d'un amour illégitime, on va dire. Et sa maman va se remarier et il aura une relation assez compliquée avec son père adoptif. Et du coup, c'est un enfant qui va se développer beaucoup d'intuition. Il va développer des dons artistiques, notamment la peinture. Et d'ailleurs, il est galeriste aussi et il expose à Collioure. Nous allons aussi sur Collioure. Et c'est Rodrigue, c'est l'amoureux. C'est l'amoureux passionné. Passionné parce qu'il rencontre un personnage flamboyant qui est Graziella. Et on ne peut pas parler de Rodrigue sans parler de Graziella, la gitane.
Voilà. Dans la liste des personnages, il y a une figure, je dirais, que un peu caractéristique de ce monde viticole, c'est l'employé dévoué à la famille. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il joue au sein de la famille et tout au long du roman?
Oui, alors Jean Marcelin, en fait, est arrivé très très jeune dans la propriété, 19 ans, vous imaginez bien. Et donc, c'est lui qui va raconter à travers différents moments. Il va déployer quelques mots, alors à l'enquêteur, à Pascal Rollin. Il va raconter quelques instants de vie, de la vie qu'il a pu surprendre entre Rodrigue et Anaïs. Rodrigue, le frère, Anaïs, la sœur. Et puis, il est le témoin. Il est le témoin de cette histoire familiale, de ce drame. Et il, de temps en temps, il se tait parce qu'il ne veut pas aller trop loin. Et puis, il se rend compte aussi qu'il faut qu'il parle. Donc, il est écartelé, mais c'est vraiment un être très... J'ai tenu à ce qu'il fasse partie de la famille, puisque d'ailleurs, dans le roman, je le fais rentrer dans la famille.
Alors, pour construire tous ces personnages, il doit y avoir un travail assez délicat. Vous procédez de quelle manière? Est-ce que, par exemple, vous faites en préalable à une rédaction une fiche profil de chacun des personnages, ou ces personnages se développent-ils au fur et à mesure que l'intrigue avance?
Alors, pour ce roman-là, effectivement... j'ai commencé par écrire les 3-4 chapitres sans plan. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, là maintenant, il faut que j'écrive, que je fasse des petits mémos sur les chapitres que j'ai pu écrire. Et donc, ça m'a permis d'avancer ainsi. Et après, je me suis laissée guider par mes personnages. Alors, je sais, c'est un lieu commun de le dire. Quand on est auteur, très souvent, on dit on est guidé par ses personnages. Mais là, parfois, c'était vraiment flagrant. Il y avait des moments où j'étais... ma plume, voilà, enfin, si je peux parler de plume, puisque je travaille sur ordinateur. Mais voilà, c'était... je suivais... Je n'étais plus dans le plan. En revanche, j'avais besoin, à la fin de chaque chapitre, de le résumer, pour pouvoir me relire le lendemain, bien renoter tout, pour être totalement au clair, justement, avec tous mes personnages, pour pouvoir les reprendre un par un, les réintroduire, savoir quand, dans la nécessité du récit, il fallait que je reprenne tel personnage ou tel autre.
Et est-ce que c'est un exercice difficile de veiller à la cohérence du comportement d'un personnage pour justement être certain que par rapport à la manière dont il a été décrit, donner l'impression, et même plus que l'impression, qu'il agit justement avec cohérence. Est-ce que cet aller-retour entre ce qui a été présenté au lecteur et les actions et le comportement du personnage, est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à régler?
Oui, c'est bien sûr, c'est toujours difficile et moi j'ai trouvé un peu peut-être, enfin à ma manière, un système qui est peut-être de mettre, j'appelle ça des petits cailloux blancs pour les lecteurs, mais parfois je me demande si c'est pas pour moi-même, justement, pour m'y retrouver, ne faisant pas justement ces fameuses fiches. Alors oui, ben, ces personnages, ce qu'il y a, c'est que je stabilote. Quand je fais mes résumés de chapitres, je stabilote. Et j'ai des codes. Donc pour mes personnages, ça va être rose. Et quand je fais ressurgir des caractères particuliers, ça sera stabiloté d'une autre couleur. Ce qui fait que j'ai tout de suite le visuel, parce que je suis quelqu'un de très visuel. J'ai tout de suite... Ah oui, et puis bon, je vis, il faut le dire, il faut bien le dire quand on écrit un roman, en tout cas pour ma part, je vais écrire sur 6 mois à peu près, je le pense quelques mois avant, il mature, mais à partir du moment où je commence la rédaction, on va dire véritable, du roman, à partir de là, je vis avec mes personnages, aux grandes dames parfois de mon compagnon, mais c'est vrai que je vis avec mes personnages et parfois même j'en rêve, parce que ce sont des compagnons de route pendant un temps et je ne veux pas les trahir, et je veux pouvoir porter l'histoire jusqu'à son incandescence, jusqu'à ce que moi-même je sente que j'ai pu enfin dire à peu près tout ce que j'ai voulu exprimer. Voilà.
Et c'est à ce moment-là que vous pouvez dire, mes personnages sont vraiment des personnages vivants.
C'est cela, c'est
Voilà.
cela, exactement.
Muriel Karchin, je vous propose d'écouter maintenant un morceau que tout le monde va reconnaître très rapidement.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes sur les coteaux de Banyuls avec Muriel Karchon pour son dernier roman Vendange amère paru aux éditions TDO. Donc nous venons d'entendre L'amour est un oiseau rebelle de Georges Bizet, qui est donc l'acte 1 de Carmen. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour est un enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Cela reflète le sujet de l'amour, le nœud de l'histoire ou des histoires d'amour du roman.
Oui, en fait, dans ce roman, j'ai entremêlé des histoires d'amour, mais il y a l'amour romanesque, il y a l'amour passion, il y a beaucoup de passion. Il y a la passion de ces hommes, on l'a déjà dit, mais je tiens à revenir là-dessus. La passion du vin, la passion de la terre et la passion du vin. C'est pour ça que j'ai souhaité Carmen, pour incarner cette passion. Alors déjà, tous ces hommes. Ensuite, il y a la passion, sans rien dévoiler, entre Rodrigue et Graziella, qui se retrouvent à une fête à Perpignan. Et puis, il va y avoir l'amour-tendresse qui existe dans le vieux couple Césario et Martha, qu'on a déjà évoqué. Il va y avoir des jeunes amours, je n'en dirai pas plus. Ce sera au lecteur de le découvrir. Mais oui, bien sûr, l'amour, c'est le maître mot de ce roman. Et il se décline sous toutes ses couleurs, sous tous les cieux, sous l'orage. Et sous l'incendie même de la couverture.
Non, parmi les sujets donc qui sont dans le fond de votre roman, il y a la condition féminine, on a commencé à l'aborder. On y voit la description de plusieurs générations de femmes, avec donc des comportements différents, des réflexes différents, dus justement aux contraintes qu'elles ont vécues chacune l'une après l'autre pendant leur vie. Est-ce que c'est important pour vous d'écrire à ce sujet-là?
Oui, alors ce roman, il a été écrit, en fait, il est paru en mars 2023, mais je l'ai écrit en 2021. Et pour moi, sans m'inscrire dans la vague MeToo, parce que c'est pas ça du tout, mais je trouvais que quand même le thème de la femme, à travers, on va dire, une soixantaine d'années, a été important à traiter, parce qu'on voit l'évolution, on voit Martha, donc on va pas dire totalement assujettie, mais obéissante, entre guillemets, à Césario. On va voir une jeune femme qui, dans les années 68, va un peu essayer de s'envoler, qui va être fauchée. Et puis, il y a la troisième génération, Anaïs, Graziella, la gitane, où là, on voit déjà beaucoup plus les temps que nous vivons actuellement, même si ça se déroule qu'en 2017, et où ce sont des femmes qui prennent leur destin en main, qui prennent vraiment les rênes de leur vie et qui choisissent, au risque peut-être de rencontrer la mort, qui choisissent de vivre pleinement leur vie.
Alors on voit cette évolution de la condition de la femme et de son comportement à travers ces générations, comme vous venez de le dire, mais on le voit aussi à travers Martha, parce que Martha, entre le début du roman et la fin du roman, elle se permet un certain nombre de choses, de comportements, de rappels à l'ordre, si on peut dire, vis-à-vis de Césario.
Mais exactement, vous avez vraiment très 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 bien lu. Martha évolue. Martha n'est pas un bloc comme Césario. Si Césario, lui, ne bouge pas d'un iota, Martha évolue. C'est une femme qui voit la souffrance autour d'elle et qui comprend beaucoup de choses. Et puis, elle a cette fameuse sœur qui est Tantuguette. Cette Tantuguette si originale et qui est une sœur un peu plus jeune de 15 ans, qu'elle a élevée, donc comme une mère. Mais cette sœur va la pousser dans ses retranchements de femme, va lui dire « Mais attends, mais ça, tu ne peux pas l'accepter. Martha, ça la fait réfléchir, bien évidemment. Et elle va bouger. Césario a du mal à suivre. Hein. Mais c'est vrai que c'est un personnage attachant, Martha, parce qu'elle est un peu comme Jean Marcelin, d'ailleurs. Elle se rapproche de l'ouvrier. C'est elle qui lui ouvre la porte de la famille. Martha, elle est le témoin, le témoin autour de duquel se déroule toute cette histoire. Et c'est elle qui va... j'allais dire quelque chose qui risque de dévoiler. Je n'irai pas plus
loin.
Donc,
il ne faut pas le dire. Il faut pas le dire.
Je n'irai pas plus loin.
Alors, je voudrais un dernier point. Vous évoquez donc la notion de patriarcat, bien vivante dans votre roman. Vous y adjoignez forcément tout ce que l'on pourrait appeler des conventions sociales, les a priori, et la problématique de l'intégration en France, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette famille qui venait d'Algérie et qui avait eu des difficultés à s'intégrer. Vous parlez aussi, un thème qui est lié, c'est celui de la tolérance et de la coexistence de plusieurs mondes, hein, le monde des gens du terroir, le monde des gens du voyage, et vous avez finalement... Vous donnez dans cette histoire une vision optimiste de dire qu'il y a des moyens d'entente, qu'il y a des moyens de coexistence et plus d'ailleurs.
Oui, oui, oui. C'est aussi un thème qui me tient. En fait, j'ai mis plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur dans ce roman, et notamment c'était aussi celui de trouver sa place dans la société et dans le monde, dans la géographie dans lequel on peut évoluer. Effectivement, trouver sa place, c'est important, c'est une manière d'être au monde. Et ces personnages, Césario et Martha, ces fondateurs, voilà, quand ils arrivent, Césario, je l'ai déjà dit, lui, voilà, il s'implante et il sait que c'est important parce que sans racine, on est poussé par le vent et on ne peut aller nulle part. Et il le sait que si on doit savoir d'où l'on vient, il faut savoir aussi où l'on va et savoir aussi parfois s'arrêter et s'implanter. Voilà, c'est un peu tout cela que j'ai voulu développer avec en opposition, entre guillemets, ces gens du voyage qui, eux, depuis la nuit des temps, voyagent à l'encontre de Césario. Et malgré tout, il va y avoir des possibilités de rencontres. Parce que oui, bien sûr, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est prédestiné à être, à faire partie de quelque chose, que pour autant, on ne puisse pas rencontrer l'autre, aimer l'autre avec un A majuscule et peut-être fonder quelque chose avec l'autre.
Voilà, et les auditeurs pourront apprécier avec précision, effectivement, les conditions de réalisation de ces rencontres. Muriel Carchan, je voudrais que nous arrêtions rapidement sur votre style. Alors, je voudrais dire aux auditeurs que lorsqu'on lit votre livre, on a vraiment l'impression, la sensation d'être sur les coteaux de Banyuls. On sent la terre, la poussière de la terre, on sent parfois même un peu la chaleur, voire la chaleur excessive. Et vous avez un style qui permet de faire passer beaucoup de choses. Alors je voudrais citer quelques extraits pour les auditeurs. À propos de la description des paysages, vous dites « On éprouvait alors le sentiment de profaner un lieu privilégié des dieux. Le regard se brûlait au vert des vignes, se cognait aux rayons ardents du soleil, puis plongeait dans le bleu intense de la Méditerranée. » N'est-ce pas très joli?
Je crois que c'est la Côte Vermeille et c'est un endroit que j'aime beaucoup.
Alors, vous avez également le sens de la formule. Dans votre manière de dire, il y a le dit et le non-dit qui sont en parallèle. Ce n'était pas un mauvais homme, c'était un homme de son époque. J'ajouterai 3 points de suspension. Pour la description des attitudes, vous dites « leur voix avait baissé d'un ton, comme si le vent des corbières pouvait emporter les paroles et révéler le secret de la maison Escriba. »
Voilà. Oui.
Voilà. Donc, je voudrais donc préciser aux éditeurs que ce livre, c'est vraiment un polar. On est tenu en haleine. Tout au long de votre écriture, il y a des petites touches, des petits signaux. Quand on arrive à un petit signal, on se dit « Quel est le précédent que j'ai pu manquer ?» On ne sait jamais. Voilà. Muriel Carchon, merci beaucoup pour cette belle histoire. Merci beaucoup pour ce roman qui est une bouffée, une vraie bouffée d'air parfumé de raisin et d'embrun. Donc, on souhaite beaucoup de succès à ce roman et beaucoup de succès à vous-même dans votre, dans vos futurs écrits. Merci encore, Muriel Carchon.
Merci, Philippe, pour cet accueil si généreux.
Je voudrais donc saluer nos auditeurs et leur rappeler que cette émission est disponible en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques et naturellement sur le site de Radio Présence. Merci, au revoir à tous et bonne lecture.